nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Devaux.
Le gouvernement vient à peine de débuter sa réforme sur les collectivités territoriales que les Français, pour ceux qui auraient bien compris de quoi il s'agissait, semblent peu favorables à cette réforme selon un sondage TNS Sofres, réalisé mardi 8 décembre 2009 par l'Association des régions de France. Alors pourquoi cette réforme suscite-t-elle si peu d'enthousiasme et en quoi va-t-elle jouer un rôle majeur dans les structures des administrations territoriales? C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Laurence Lemouzy, journaliste et rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux de l'Institut de décentralisation, pour nous décrypter cette nouvelle réforme et en comprendre ses enjeux. Laurence Lemouzy, bonjour.
Bonjour Julie Devaux.
Le gouvernement a soumis dernièrement au Parlement un projet de réforme des collectivités territoriales. Les mesures annoncées font actuellement débat dans l'enceinte parlementaire et dans les assemblées territoriales. Certains y voient même un retour de l'État. Peut-on craindre une recentralisation, à votre avis ?
Alors effectivement, les mesures que peut-être nous allons tenter ensemble de décrypter font l'objet de plusieurs controverses actuellement, et notamment celle d'un retour de l'intervention de l'État dans les territoires. Certains y voient un retour de l'État en raison de la crise économique, aussi un soupçon à l'égard des collectivités territoriales qui seraient jugées trop dispendieuses et l'État devrait intervenir pour mettre de l'ordre, ou on y voit aussi des réflexes jacobins qui ont surgi du tréfonds de notre culture politique. Alors peut-être qu'il y a effectivement de tout cela dans la réforme territoriale qui se prépare. C'est une réforme pourtant nécessaire face au constat partagé par tous. Il est partagé par tous quant à la superposition des structures d'administration territoriale et quant aussi à la complexité des circuits de décision et de financement.
Pourtant, en 2003, la Constitution a été révisée, puis en 2004, une loi sur les libertés et responsabilités locales a été adoptée. N'ont-elles pas déjà transformé les institutions territoriales et leurs compétences ?
Alors, oui et non. On peut dire que depuis les grandes lois du début des années 80, les lois de décentralisation, c'est comme s'il y avait eu une stratégie d'évitement qui avait prévalu à chaque nouvelle étape de la décentralisation. Un peu comme si la décentralisation n'a été rendue possible que par une sorte d'accommodement, de renoncement successif. La décentralisation, en fait, s'est développée sans que l'on en vienne à retoucher la carte administrative dont on hérite de la Révolution et de l'Empire. Alors, ceci ne veut pas dire que rien de décisif n'a été fait. Au contraire, mais cela l'a été au prix de la complexité parce qu'il a fallu créer et donc ajouter au gré des besoins et des développements de l'action publique locale, alors de nouveaux périmètres, de nouveaux niveaux, je pense aux régions, je pense aux intercommunalités, je pense aux pays, on a empilé. Alors si cette stratégie s'est avérée initialement payante, elle a pour beaucoup aujourd'hui épuisé ses mérites.
Peut-on s'attendre à une réforme de rupture ?
Alors, le texte, la réforme qui s'annonce, hein, puisqu'il y a eu quatre textes de loi qui ont été déposés au Parlement, n'est pas en tant que telle une réforme de rupture. En effet, on va toujours essayer d'amender l'existant au risque d'une plus grande complexité, d'ailleurs quitte à confondre les niveaux d'administration. Je pense aux régions, aux départements, on va y revenir, ou à ajouter même des structures, puisque on devrait créer des métropoles, des pôles métropolitains qui vont venir compléter le millefeuille territorial.
Parlons un peu du projet sur la clarification des compétences. Tout d'abord, qu'entend-on par clarification des compétences ?
Alors c'est vrai que c'est une expression répandue et il faut s'arrêter sur ce qu'elle signifie. Qui dit clarification des compétences dit qu'aujourd'hui, elles ne sont pas claires. Elles ne sont pas claires pour qui ? Pour le citoyen qui, effectivement, a beaucoup de difficultés à savoir qui fait quoi. Qui fait quoi en matière, par exemple, d'éducation ? Je ne suis pas sûre que si on interroge nos concitoyens, ils savent effectivement que c'est la région qui s'occupe des lycées, le département des collèges et la commune de l'enseignement primaire. Et quelquefois, lorsqu'ils voient un investissement public qui est réalisé dans la ville, ils voient tellement de logos sur l'affiche qui annonce la création de ce service public qu'ils ne savent plus effectivement qui est responsable de quoi et en cas de problème, qui peut en porter la responsabilité politique et qui pourra être sanctionné lors des prochaines élections. Est-ce que ce sera le président de région, le président de département ? Est-ce que c'est le maire ? Est-ce que c'est le président de l'intercommunalité ? Donc des compétences qui s'enchevêtrent, chaque niveau intervient à la fois dans le domaine qui lui est attribué par la loi, mais aussi dans toute une série de domaines, dès lors qu'il y a intérêt local, ce qui rend effectivement un tableau assez opaque, assez complexe du qui fait quoi. Donc on essaie, on tente depuis des années de clarifier les compétences.
Mais ne devait-elle pas reposer sur la suppression pour les régions et les départements de la clause générale de compétences ?
Alors effectivement, alors c'est une affaire compliquée. La clause générale de compétences permet à une collectivité territoriale d'intervenir dans un domaine, même si elle n'a pas la compétence au regard de la loi. Prenons quelques exemples. Deux politiques publiques emblématiques, la culture, le sport. La culture, l'État reste le garant d'une politique culturelle en France, mais il n'empêche que des villes, des départements, des régions peuvent intervenir pour financer du spectacle vivant, pour financer des écoles de musique ou toute activité culturelle. Par exemple, les acteurs liés au monde de la culture sont aujourd'hui très inquiets parce que s'il y a, comme le prévoient les textes, suppression de la clause générale de compétences au niveau de la région et au niveau de département, elle serait maintenue pour les communes. Ceci voudrait dire à terme qu'il y aurait une suppression des financements et des interventions, par exemple de la région et du département, dans des politiques publiques où on les attend pourtant. Parce que si la région et le département ne peuvent plus intervenir dans le domaine de la culture ou du sport, il y aura effectivement des gros problèmes de financement de ces activités. Une voie semble se dégager qui consisterait à désigner ce qu'on appelle une autorité organisatrice. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la culture, l'autorité organisatrice en soit la région, quitte à ce qu'elle-même, elle délègue par convention une partie des actions culturelles qu'il est nécessaire de mener sur le territoire au département ou à la commune.
À votre avis, est-ce que le projet de réforme va conduire à une diminution du rôle qu'ont actuellement les collectivités territoriales ?
Alors, certains craignent effectivement un effet de recentralisation avec une plus forte présence de l'État et surtout au-delà de cela, un amoindrissement du rôle des collectivités territoriales. Ceci est d'autant plus vrai que cette réforme se percute avec les questions de finances et de ressources des collectivités territoriales. Vous le savez, est prévue la suppression de la taxe professionnelle qui sera compensée par l'État, mais qui va largement compromettre la marge de manœuvre financière d'un certain nombre de collectivités. Les collectivités, d'un autre côté, vont voir leurs compétences et leur architecture modifiées par les projets de loi dont nous parlons. Effectivement, l'État enserre en quelque sorte l'action publique locale et certains n'hésitent pas à dire, dans un souci de réduire les services publics locaux, après avoir réduit les services publics nationaux.
À votre avis, est-il prévu de supprimer le rôle des départements au bénéfice des régions ?
Ah, c'est une grande question. On parle depuis longtemps de la suppression des départements. Alors, la question de l'institution départementale, elle n'est pas abordée directement, de front. Elle l'est seulement un peu de manière oblique, en raison de la création des métropoles et la création des conseillers territoriaux. Pourquoi je dis les métropoles ? Parce que en créant une métropole, prenons l'exemple, la métropole de Lyon pourrait tout à fait prendre les compétences autrefois dévolues au département. Donc le département du Rhône n'exercerait plus, si je puis dire, son pouvoir, ses compétences à l'échelle du territoire métropolitain. Il n'aurait plus qu'à s'occuper de l'espace plus rural qui serait le sien, mais ce serait la métropole qui absorberait, donc la métropole de Lyon, qui absorberait les compétences aujourd'hui dévolues au département. Donc vous voyez bien qu'on pourrait à la fois arriver à des scénarios différents d'un département, d'une région à l'autre, mais aussi à une sorte de suppression ou de fusion des départements et des régions, pourquoi pas à terme, effectivement.
Il est prévu de créer des pôles métropolitains ainsi que des métropoles. Peut-on s'attendre à un agrandissement des communes ?
Alors, la création du statut métropolitain, d'abord, elle répond à la montée en puissance du fait urbain et aussi à la compétition entre grandes agglomérations urbaines au niveau international ou européen. On sait qu'en France, nous souffrons du déficit de visibilité de grandes métropoles. Quelles villes françaises, en termes de visibilité, peuvent-elles faire concurrence avec une ville comme Milan, par exemple en Italie ? Nous ne sommes pas dans les mêmes échelles et la volonté de créer ces métropoles répond à cet objectif. Donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, dans les agglomérations qui compteront à minima 450 000 habitants, qui seront constituées sans enclave, donc d'un seul tenant, la métropole pourra exercer, je vous le disais tout à l'heure, les compétences du département et de la région. Ce sera une sorte de super intercommunalité. Les communes qui en seront membres n'ont pas vocation à disparaître. Elles conservent leur statut de collectivité territoriale. On continuera d'élire les maires de ces communes, mais elles appartiendront à une métropole qui aura une ambition plus large, plus grande et une visibilité européenne, voire internationale, plus importante. De notre côté, on a les pôles métropolitains qui fonctionneront comme une sorte de syndicat mixte. Ils sont fondés sur le libre consentement des parties et surtout, il s'agit de fédérer 450 000 habitants, mais cette fois-ci sans obligation de continuité spatiale. Certains parlent de lot de consolation, puisque ces pôles métropolitains concerneront les espaces qui seront compris entre 200 000 et 450 000 habitants. Les métropoles, c'est plus de 450 000. Donc ce Canova, par exemple, permettra de resserrer des liens entre ce qu'on appelle le Grand Nancy et Metz Métropole. On voit qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre les deux, mais l'idée, c'est de les allier dans un pôle métropolitain pour peser plus lourd en termes de développement du territoire. Ce sera par exemple aussi le cas entre ce qu'on appelle le Grand Lyon et Saint-Étienne Métropole, de créer un lien, une fédération entre ces deux espaces territoriaux pour qu'ils pèsent davantage et agissent davantage de concert.
Un objectif a été fixé dernièrement par le gouvernement, achever la carte intercommunale fin 2014. Savez-vous quels ont été les dispositifs qui ont été prévus afin d'y parvenir?
Alors effectivement, achever la carte intercommunale, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que toute la France soit couverte de structures intercommunales, que chaque commune puisse appartenir à ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale. Alors, le projet de loi invite à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte du poids démographique des communes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin plutôt demain, les sièges seront répartis en fonction de critères démographiques. C'est une mini-révolution car actuellement, dans beaucoup d'intercommunalités, les petites communes se révèlent surreprésentées et de facto les grandes communes sous-représentées. Donc le texte prévoit aussi la possibilité pour la structure intercommunale de se voir confier par contrat, au-delà des transferts organisés par la loi, toutes les compétences que les communes qui en sont membres décideraient de lui transférer. Donc c'est véritablement un pouvoir urbain que l'on va assister. Alors, pour répondre à votre question, c'est ici qu'apparaît sans doute de façon assez significative le volontarisme politique de l'État et quelque part une sorte de, si ce n'est de centralisation, mais d'accroissement de la présence de l'État, puisque des pouvoirs d'exception vont être reconnus au préfet jusqu'au 31 décembre 2012, puisqu'il est prévu l'obligation d'adopter dans chaque département un schéma de coopération intercommunale. Ça veut dire quoi ? Ce schéma sera établi par le préfet au vu d'une évaluation de la cohérence des regroupements existants. Le préfet va s'intéresser à son territoire et va voir là où il y a des poches qui résistent, des zones qui ne sont pas couvertes par l'intercommunalité. Et le schéma qu'il bâtira doit aboutir à la suppression donc des enclaves et des discontinuités territoriales. Ce schéma va donner au préfet des pouvoirs exorbitants puisqu'ils vont lui permettre par arrêté unilatéral et sur le fondement de nouveaux périmètres définis de créer de nouveaux établissements de coopération intercommunale, d'en modifier le périmètre et même après, tout de même, consultation des communes concernées, d'en proposer la fusion. Donc le préfet pourra effectivement proposer à deux structures intercommunales de fusionner. Il pourra faire en sorte de susciter la création, lorsqu'elle n'existe pas, de structures intercommunales avec, vous l'avez rappelé, pour objectif d'achever la carte intercommunale d'ici 2014.
En termes d'agenda politique, la réforme territoriale se percute avec l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle. Ne pensez-vous pas qu'il manque à ce projet le volet de la réforme de la fiscalité locale ?
Alors, c'est juste, ce volet fait défaut. On parle, c'est une disposition qui progressivement va se mettre en place de la suppression de la taxe professionnelle. Il faut savoir que la fiscalité locale est assise sur des impôts que beaucoup jugent d'archaïques parce qu'ils datent du 19e siècle. Ils ont été, on va dire, replâtrés, mais jamais vraiment réformés. Ils sont souvent devenus illisibles, quelquefois injustes et parfois difficiles à justifier. D'ailleurs, je ne sais pas comment expliquer à nos concitoyens que lorsque leurs feuilles d'impôts locaux augmentent, en fait, ce n'est pas forcément de la responsabilité des élus locaux, parce que vous pouvez très bien avoir des impôts locaux qui augmentent du fait de l'indexation des bases. Alors, c'est des points un peu difficiles, mais quand les élus locaux décident de ne pas augmenter, eux, la fiscalité, car ils n'en maîtrisent pas les taux. Donc, l'État, par rapport aux impôts locaux, peut décider aussi d'influencer sur leur augmentation sans que les élus locaux ne le veuillent. Donc, je pense qu'effectivement, une décentralisation plus moderne, plus ajustée à la société actuelle, suppose que l'on dote les collectivités locales d'une fiscalité autonome qui remplacerait le découplage que l'on a entre les ressources maîtrisées par l'État et les dépenses ordonnancées par les pouvoirs locaux. Cette réforme fiscale impliquerait que l'on réforme aussi, et enfin, les assiettes fiscales qui creusent les injustices et qui n'ont plus qu'un rapport ténu avec les valeurs patrimoniales et plus encore avec les capacités contributives. Alors le gouvernement s'y est engagé, cette réforme qui souhaitent mettre de l'ordre dans les dépenses devraient aussi effectivement en mettre dans les ressources, et il y va sans doute de la légitimité du service public local.
Merci Laurence Lemousier d'être venue nous expliquer les enjeux de la réforme sur les collectivités territoriales qui fait actuellement débat au sein du gouvernement. Je rappelle que vous pouvez également écouter l'émission que Laurence Lemousier a réalisée à ce sujet avec Jean-Pierre Baligan. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission Focus. Thank you.